39, les versets 17 à 18 et 33 à 34. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et nous lirons dans Matthieu 18, au verset 15 à 22. C'est le pardon des offenses. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. »
Pardonnez-vous facilement. Qu'est-ce que vous pourriez ou vous ne pourriez pas pardonner? Ces questions sont difficiles. Elles sont pourtant si actuelles. Elles évoquent, je pense, pour chacune et chacun d'entre nous, un certain nombre de relations plus ou moins abouties, où le pardon ne peut pas être donné. Elles évoquent des situations qui nous tourmentent, qui nous blessent, qui restent un peu bloqué au fond de nous-mêmes. Des livres entiers ont été écrits sur le pardon. Non seulement au sujet du pardon en général, en dissociant les différentes étapes pour y parvenir, mais aussi pour évoquer des problèmes sociaux, politiques, où le pardon est quelque chose qui se fait difficilement. Peut-on pardonner après Auschwitz? C'est une question qui a habité les Français, en tout cas, mais beaucoup d'autres après la guerre. Peut-on pardonner après le Rwanda? on donne aussi des exemples intéressants. La commission Vérité et Réconciliation qui, au Chili d'abord et puis en Afrique du Sud, a tenté de recoller les pots cassés et bien cassés, où le pardon était lié à un oubli, à une amnistie, à un pardon généralisé. En tous les cas, la question reste brûlante et actuelle pour les personnes que nous sommes, mais aussi pour les collectivités que nous sommes. Dire à quelqu'un « je te pardonne » n'est pas quelque chose d'anodin. La parole, dans une telle déclaration, fait ce qu'elle dit. On l'appelle une parole performative, performante. Elle fait quelque chose. Mais, pour la Bible, ou en tout cas pour les deux textes que nous avons entendus, c'est le dernier moment, la dernière étape de tout un processus. On ne commence pas par dire le pardon. Si c'est le cas, il semble que ça ne soit pas très sain. S'il faut rompre le silence, nous dit la Bible, c'est d'abord pour dire l'offense, la faute, la blessure. Tu m'as blessé. La loi du silence, en effet, profiterait à l'offenseur, surtout s'il est plus puissant que vous, s'il occupe une place d'autorité, s'il a plus de pouvoir que vous. La parole doit reprendre alors ce qui s'est passé, en fait, pour que j'arrête de ruminer ce qui m'a blessé. Elle met en mots le tort qui m'a été fait, la blessure, sous forme d'un reproche qu'elle adresse à l'autre. Elle fait mémoire, non pas pour garder mémoire et pour ressasser, mais pour libérer cette mémoire, pour la libérer de ce passé et permettre une réorientation du présent. Vous savez certainement que c'est dans le Lévitique et dans les deux textes que nous avons lus que nous trouvons les deux seuls endroits où est mentionné ce commandement d'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il concerne deux situations très précises où il est question de la perfection ou de la sainteté de Dieu, et évidemment de celle des membres de son peuple qui sont appelés à cette sainteté. C'est évidemment la première qui nous intéresse, la seconde a trait à l'immigré, à l'étranger, qu'il nous faut aimer comme nous-mêmes. Mais la première, c'est celle où il est question du reproche. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, reprocher, tu reprocheras. L'hébreu, là, a quelque chose de très fort. Tu reprocheras vraiment à ton prochain. Et tu ne porteras pas pour lui une faute. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune au fils de ton peuple. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je suis le Seigneur. Ce qui préoccupe le législateur biblique, c'est pas tellement, ou pas seulement, d'abord le pardon, c'est d'abord le reproche. Le commandement d'amour, d'une certaine manière, contient cette obligation du reproche. Il faut pouvoir reprocher, il faut pouvoir faire des remontrances, reprendre l'autre, montrer à quelqu'un le mal qu'il a fait, la blessure qu'il a causée, quelque chose dont il n'est même pas forcément conscient, bien qu'il en soit l'auteur. Si je ne fais pas ce reproche à mon prochain, sous-entend la Bible, ou bien je vais être amené à le haïr, ou bien je vais porter moi-même sa faute, ou bien encore je vais me venger. Cette offense que j'ai subie, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de la mettre hors de moi, de la déposer. Et pour peu que je sois dans une relation de soumission à l'offenseur, cette offense, elle est, il faut dire, extrêmement difficile à déposer. Je n'ose pas parler à cet offenseur, à moins que j'aie une liberté de parole, ce qui est assez rare. et l'offenseur ignore volontairement ou involontairement l'offense qu'il m'a faite. Il l'oublie, il l'annule. Si elle n'est pas dite, la faute se trouve donc alors déplacée sur celui qui l'a subi, sur la victime. Et il faut peu de choses pour que le plus faible s'en excuse, pour que ce soit lui qui demande pardon, alors que c'est lui qui a subi l'offense. La faute est retombée sur lui. Formuler des reproches, je dirais que c'est un travail, et un travail difficile. Oui, un travail, et peut-être dans le sens étymologique du mot, puisque le mot, vous le savez peut-être, vient d'un instrument de torture. La blessure me torture, je n'ose pas aller faire le reproche à celui qui m'a offensé, je me sens mal, j'ai un sentiment d'avoir été profondément humilié. C'est pourtant, dit la Bible, un travail indispensable pour ne pas porter soi-même la faute ou être entraîné dans des actes qui ne sont pas acceptables. Et l'évangile de Matthieu revient sur la même question, vous l'avez remarqué. Quelqu'un t'a fait du tort, il se peut même que ce soit un membre de la communauté ecclésiale. On sait que pour Matthieu, dès l'origine, cette église n'est pas constituée de purs, de parfaits, où tout va bien, que c'est un peuple mélangé, rassemblant des pécheurs, comme des gens un peu moins pécheurs que les autres, mais les rassemblant sous l'horizon, comme on l'a vécu tout à l'heure, du pardon, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. La première recommandation de Matthieu, c'est la même que celle du Lévitique. Il faut que tu ailles trouver ton frère qui t'a fait du tort, ou qui a tout simplement fauté, même si cette faute n'est pas dirigée contre toi. Alors, tu lui feras les reproches qu'il mérite. L'objectif n'est pas de l'enfoncer dans la culpabilité, mais de le gagner, d'obtenir de lui des excuses et de pouvoir le pardonner et le libérer. Il pourra ainsi conserver sa place digne dans la communauté, dans l'Église. Il faut bien sûr qu'il n'écoute pas, mais là, tu ne dois pas laisser tomber. L'enjeu est trop important. Prends avec toi deux ou trois frères ou sœurs qui seront témoins de ta volonté de mettre les choses au point. C'est eux qui prendront la parole et qui mèneront l'affaire. Il peut évidemment encore refuser de les entendre. Alors, là, il faut que tu fasses intervenir l'Église dans une ultime tentative pour qu'il écoute et prenne au sérieux les reproches qui lui sont faits. Mais cette tentative, si elle a beaucoup de chance d'aboutir à quelque chose de positif, peut aussi être un échec. Alors, que faire? Et là, une question d'interprétation de l'évangile de Matthieu se pose. Qu'est-ce que signifie cette expression « Alors il sera pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts » Comment comprendre? Dans le judaïsme de l'époque, on excluait ces gens-là. Et peut-être qu'au départ, certaines communautés chrétiennes se sont comportées comme certaines synagogues ou comme les Esséniens. On excommuniait les pécheurs, et on sait que dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de ces excommunications. Mais la communauté de Jésus peut-elle excommunier et se désintéresser de ces personnes que Jésus a justement cherché à rejoindre dans tout son ministère pour les mettre au bénéfice du pardon de Dieu? C'est pourquoi l'Évangile enchaîne avec deux autres paroles du Christ. D'abord, il rappelle que l'Église, que cette communauté locale qui se prononce sur le sort du pécheur, a reçu le pouvoir de lier et de délier, ce qui est un pouvoir redoutable. La discipline fraternelle n'est donc pas simplement une opportunité de régler un différend ou dépend d'un membre que l'on exclut. Ce n'est pas non plus l'exercice d'un pouvoir judiciaire humain, par son jugement, qui d'une certaine manière préfigure le jugement de Dieu à la fin. Cette communauté chrétienne anticipe le destin de la personne égarée. Elle le lie à sa faute ou elle l'en délie. Elle oriente ainsi toute son histoire, non seulement l'histoire dans l'éternité, mais l'histoire qui s'ouvre devant cette personne. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'évangile de Matthieu attache une telle importance à cette question du pardon. Et c'est important aussi de rappeler que le cadre d'origine d'une parole que l'on dit souvent quand il y a peu de monde au culte ou dans une réunion où on a peu de monde, là où deux ou trois sont réunis, le cadre d'origine de cette parole se trouve lié à la question du pardon. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur adviendra d'auprès de mon Père qui est aux cieux, car là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, là je suis au milieu d'eux. Pour moi, cet ajout est essentiel. Il indique que pour Matthieu, un différend avec le frère ne se tranche pas de manière administrative ou juridique, mais dans la prière. Une prière à laquelle un exaucement est promis, non seulement parce que le Père est là, à l'écoute, mais parce que le Seigneur ressuscité est au milieu des siens. Ainsi, le pardon qui peut se vivre entre deux personnes ou entre une personne et sa communauté devient-il un signe de la présence du ressuscité parmi les siens. Contre le désir d'anticiper le jugement de Dieu dans le procès d'un coupable, à la manière d'une institution de pouvoir, ou contre la volonté de se séparer de lui à la manière d'une secte, Matthieu rappelle que s'il est nécessaire d'avoir une discipline communautaire, celle-ci ne peut être suivie que dans la perspective d'une libération et d'un pardon. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas compris, il ajoute encore la question de Pierre. « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui remettrai-je jusqu'à sept fois ?» Dans sa réponse, Jésus fait une allusion discrète à la vantardise de Lamech, qui dans la Genèse promet que si Caïn doit être vengé sept fois, lui, il se vengera jusqu'à 70 fois. Lamech, on le sait, inspire encore un certain nombre de nos contemporains. Mais Jésus retourne le propos tout en augmentant la dose, on pardonnera non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Est-ce à dire que le pardon devient automatique? Non. Mais on se trouve ici devant quelque chose de paradoxal. Le pardon se demande, il doit se demander par celui qui a offensé, et toute demande de pardon doit pouvoir affronter le refus, c'est-à-dire la déclaration d'un non, c'est pas pardonnable, on ne veut pas pardonner. Et en même temps, dans la perspective de la grâce, dans la perspective de l'Évangile, il faut pardonner à l'infini, indépendamment de la demande. Il faut aller plus loin que ce que celui qui a péché est capable de faire. Un philosophe disait, le pardon est donc fou. Il doit s'enfoncer, mais lucidement, dans la nuit de l'inintelligible ou de ce que l'on ne comprend pas. Il y a une idéologie qui, reprenant un texte biblique bien connu, 1 Corinthiens 13, mais le considérant d'une certaine manière comme une liste de commandements, prétend que là où il y a de l'amour, on supporte tout, on se tait, on accepte tout. Il est peut-être nécessaire qu'une parole de la Bible nous demande avec insistance de ne pas laisser tout passer, mais de faire reproche. Il y va de notre amour pour l'autre, il y va aussi de notre amour pour nous-mêmes. Tu l'aimeras comme toi-même. Il y va de notre conscience même. Il faut pouvoir reprocher pour aimer. Pour pouvoir pardonner les offenses, je dois d'abord réussir à les formuler. Chez l'autre, évidemment. Mais aussi chez moi, parce que c'est pas simplement l'autre qui offense, c'est peut-être aussi moi. Je dois refuser de les banaliser, de les oublier. Aimer son prochain comme soi-même n'est praticable que dans la perspective d'un reproche possible et d'une réciprocité. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, dans une société assez individualiste, je n'ai pas le soutien des autres ou d'une communauté et que très souvent je dois me débrouiller tout seul pour gérer ces questions extrêmement difficiles. Peut-être avec le conseil de proches. Ce qu'il faut éviter de toute façon, je crois, à la lumière de ce que nous disent ces textes, c'est de banaliser, d'essayer d'oublier. Car le pardon n'est pas l'oubli. Bien sûr qu'un certain oubli est indispensable et qu'il fait partie de la déclaration du pardon. J'oublie la dette, j'oublie l'offense, j'oublie ce que tu me dois, mais je n'oublie pas ce qui a été fait. Il faut garder une trace de ces faits pour pouvoir entrer dans ce qu'on appelle, ou ce qu'on pourrait appeler une guérison, une thérapie de la mémoire. Ce qu'il faut guérir, c'est cette capacité destructrice des souvenirs qui font mal. Alors, à partir du reproche formulé et, on l'espère, du pardon accordé, on peut reconstruire une mémoire et réorienter son récit de vie. Des possibles qui semblaient éteints, morts, sont ouverts à nouveau et une nouvelle vie s'ouvre devant soi, éclairée par cette présence du ressuscité que nous rappelle à si bon escient Jésus dans le texte de l'évangile de Matthieu. Amen.